Et Benjamin Constant l'a très bien compris. Il dit, le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Faites attention à la deuxième phrase. Et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Autrement dit, on ne peut pas mieux dire que pour un libéral, hein, la liberté, ce n'est pas l'ombrageuse liberté des républicains qui lisent Machiavel et les grands récits de Florence ou Venise. C'est simplement l'autre nom pour un libéral d'une vie tranquille et si possible agréable. C'est le nom d'une aspiration, on ne peut plus compréhensible, à un repos historique bien mérité. Et c'est à partir de là qu'on comprend l'anthropologie, c'est-à-dire l'image de l'homme, qui va très rapidement se mettre en place chez les philosophes du temps. Tous les philosophes de Puops commencent leur théorie politique par la description de la nature humaine. Et ma thèse, c'est qu'ils ne font que se donner l'image de l'homme dont ils ont besoin pour pouvoir introduire la solution pacifiante qui va être la loi. C'est facile à démontrer. À l'époque, c'est quoi les deux causes fondamentales des passions guerrières selon les commentateurs du temps? Il y en a deux. C'est d'un côté le désir de gloire des grands, les princes, qui veulent ce pouvoir de gloire au combat. Puis de l'autre, c'est même encore plus important, c'est la prétention des hommes, source de toutes les guerres civiles, à détenir la vérité sur le bien, et donc à se juger compétent pour définir le salut des autres. Si vous partez de ces deux passions, le désir de gloire et la certitude d'être dans le vrai et de savoir ce qu'est le bien, notamment religieuse, ben, la philosophie du temps se décline très facilement. Il faudra d'un côté essayer de montrer que le désir de gloire et le culte des vertus héroïques, c'est uniquement le masque de l'amour-propre, de la vanité et de l'intérêt privé. Vous savez que c'est La Rochefoucauld, les jansénistes qui travaillent dans ce domaine. C'est ce que Paul Benichou appellera la démolition du héros. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu un héros, Jean Moulin, George Orwell, on cherche aussitôt, si on est un bon journaliste, la saloperie qu'il a dû faire nécessairement. On a des stars, mais on n'a plus de héros. Et dès que quelqu'un est soupçonné d'avoir eu un comportement héroïque dans la résistance ou ailleurs, on dit c'est pas possible, il doit avoir une faille. Ça nous vient de ce travail de démolition du héros, dont La Rochefoucauld est le fondateur. Puis de l'autre, il faudra expliquer que vos convictions sur le vrai, le bon, le bien, elles sont non seulement impossibles à communiquer universellement, mais c'est peut-être simplement au fond une affaire d'habitude et de goût, une sorte de préférence privée. Et si vous y réfléchissez, c'est les deux racines de la philosophie moderne. D'un côté, la philosophie du soupçon. Dès qu'il y a un acte généreux, on cherche qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que l'homme est un rat, un loup pour l'homme, et donc il ne peut pas faire quelque chose de bien sans que ça cache quelque chose. Et de l'autre, le relativisme culturel, le bien, le mal, l'honnêteté, etc. Tout ça, ce sont des notions totalement relatives qu'il faudra déconstruire et remettre en question. Et par conséquent, je pense que l'insistance des modernes à vouloir décrire les hommes tels qu'ils sont, c'est un leitmotiv à l'époque, et non pas tels qu'ils devraient être, se comprend à la lumière de ce programme. D'une certaine manière, on dirait que cette anthropologie, c'est la première figure du plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il faut que l'homme soit pour qu'on puisse désactiver ses passions belliqueuses, ses désirs de gloire, sa prétention à devenir le vrai? Et c'est évidemment dans ce contexte que démolit les héros, que la figure du bourgeois va devenir centrale. On va commencer à lire l'essence de l'homme à travers ce négociant paisible et inoffensif qu'est le marchand. Et j'insiste quand même sur ce point parce que parfois, on m'a souvent fait cette objection, dans mon désir de me marquer des interprétations marxistes traditionnelles, j'oublierai l'apport de Marx qui dit « mais le libéralisme, c'est la traduction de l'ascension inexorable de la bourgeoisie ». Certes, la Renaissance a connu un essor spectaculaire des rapports marchands, mais dans l'histoire de l'humanité, un essor comparable, ça a existé très souvent. La Chine des Song, l'Irak abbasside, la Mésopotamie ancienne, ils avaient des chèques, des investissements, des banques, etc. Et le capitalisme n'est pas né là. En fait, comme quelqu'un, un Américain comme Hirschman l'a dit, c'est au sein des élites de l'ancien régime, dans leur volonté de pacifier la société, que l'idée de prendre appui sur la figure du marchand. Regardez, prenons exemple sur cet homme qui, vaquant à ses affaires prosaïques, est un homme paisible et inoffensif. Il va falloir qu'on fonde la société sur les pratiques d'affaires et d'économie de cet être jusque-là méprisé et qui va devenir honorable. Et à partir de là, ça devient possible d'exposer dans sa logique fondamentale les deux mouvements parallèles qui vont construire le libéralisme philosophique à produire l'utopie d'une société qui placerait le fondement de sa paix enfin obtenue dans la dynamique de structures anonymes et impersonnelles, celle du droit et du marché. C'est-à-dire que la solution, quels que soient les deux grands libéralismes, l'idée est toujours la même. On ne peut pas compter sur les hommes, et compter sur leurs vertus, il faut vraiment être naïf. L'homme est un loup pour l'homme, version dure, version light, il est soucieux de son intérêt et de son image, et il sera toujours prêt à vous trahir. On ne peut pas faire appel à sa vertu individuelle ou à sa décence. Et donc, il va falloir trouver un système de mécanisme, check and balance, les anglo-saxons, de contrepoids et de poids, fondé sur les modèles de la physique de l'équilibre, la fameuse comparaison répandue à l'époque de la société comme une horloge, et qui permettrait d'obtenir les équilibres politiques et la paix entre les hommes de manière mécanique, sans que on n'ait plus jamais à faire appel à l'implication personnelle des sujets et à faire appel à leur décence, leur honnêteté ou leur droiture. Alors bien sûr, les deux libéralismes ont des différences, mais ma thèse, c'est qu'ils sont complémentaires, et dans la deuxième partie, ce que je vais essayer d'établir, c'est qu'en fait, même s'ils sont différents au départ, le libéralisme politique au départ ne suppose pas une certaine théorie de l'économie, mais chacun, en se développant, rencontre une impasse, il y a des pièces manquantes, et chacun est obligé d'aller chercher chez l'autre les pièces manquantes philosophiques pour que le système fonctionne. Donc, en résumé, le libéralisme est à l'origine un tableau à double entrée. Vous pouvez rentrer par le marché, en termes modernes, par la porte de droite. Vous pouvez rentrer par le droit, en termes modernes, la porte de gauche. Mais finalement, le mécanisme lui-même, on attend que la société tranquille et pacifiée soit possible grâce à ce jeu automatique des mécanismes du droit ou des mécanismes de l'économie. Dans la mesure où, à tout seigneur, tout honneur, le libéralisme politique est finalement, philosophiquement, au départ de tout, celui qui traite le problème directement politique, je vais commencer par lui. Donc, le libéralisme politique ou culturel, quelle est son action fondamentale? Il est lui de son être. Si c'est la prétention de certains individus, ou groupes d'individus, une église, une association, à détenir la vérité sur le bien, qui est la cause majeure que nous porte à nous affronter, alors les membres d'une société ne pourront vivre en paix les uns avec les autres que si le pouvoir qui organise leur coexistence est philosophiquement neutre. On appelle la fameuse neutralité axiologique du libéralisme. Ça veut dire que cet État doit désormais s'abstenir par principe d'imposer aux individus telle ou telle conception de la vie bonne. Il n'y en a plus. Degré zéro, ici, jugement philosophique. Et ce qui veut dire, et ce qui est très sympathique, au départ, je ne rejette pas tout ce qu'il y a dans cette idée, mais ça veut dire que, dans une société libérale, chacun est donc libre d'adopter le style de vie qu'il juge le plus approprié à sa conception du bonheur, ou du devoir s'il en a eu. Non pas, c'est son problème. Dans notre société, c'est ton problème, ça ne me regarde pas, c'est chacun pense ce qu'il veut, c'est devenu une réponse quotidienne, à une condition naturellement. La seule condition, c'est que l'usage qu'il fait de sa liberté, sa définition privée de la bonne, en fond le libéralisme, privatise la philosophie, la religion, la métaphysique. Chacun a la sienne, et vous pouvez la pratiquer comme vous voulez.